Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à l'émission Porte-parole sur les ondes de Canal M. Par l'émission, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers de son rôle de porte-parole. Viktor Frankl disait que l'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. C'est beau, hein?
Ah, c'est beau, puis c'est tellement vrai.
Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration à la Deuxième Guerre, écoute, s'il est capable, après avoir perdu la quasi-totalité de sa famille dans les camps de concentration, il dit, garde, c'est vrai que la vie n'a peut-être pas de sens, mais c'est à toi de donner un sens à tes épreuves, à ta vie, à tous les jours. Puis Dieu sait, Chantal Lacroix, bonjour. Combien t'en as eu d'épreuves, toi aussi?
J'en ai eu, mais même encore. J'ai jamais le sentiment que c'est des épreuves qui me jettent à terre. Tu sais, je trouve qu'au travers de toutes ces épreuves-là, si les gens peuvent les appeler ainsi, j'essaie toujours quand même de voir ce qu'il y a de positif. Puis je sais que c'est pas toujours facile. Honnêtement, là, sincèrement, il y a des fois où tu te dis « My God, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qui m'arrive. » Mais quand j'ai fait ma quête de bien-être, il y a quelqu'un qui m'a dit « C'est parce que veux pas quand tu vis une épreuve, tu es dans la vulnérabilité, t'es dans la souffrance, c'est difficile. » Si tu essayais de voir ce qu'il y a de positif, pendant que tu fais ça, tu es en mode solution. Hein? Et si tu acceptes, après ça, de ne pas résister au changement que cette épreuve-là va provoquer, parce que c'est clair que ça va amorcer un changement dans ta vie, c'est sûr. Si tu choisis de ne pas résister à ça, à chaque fois, ça m'a amené ailleurs dans des nouvelles opportunités.
Sauf que toi et moi, on a quelque chose en commun. On a fait beaucoup d'accompagnement dans le cadre du travail, dans le bénévolat, de personnes qui en vivaient des pas pires, des preuves, tu sais. Et c'est sûr que j'ai développé le réflexe, probablement comme toi, de trouver le cadeau mal emballé dans l'épreuve. Mais quand tu as devant toi une maman qui vient de perdre son enfant, mode solution, hein, t'es tellement étranglé dans l'émotion, et c'est difficile de trouver le sens, hein, à ce moment-là. Là.
Pourquoi ça t'arrive à toi? Pourquoi un enfant? En plus de ça, parce qu'il y a un non-sens qu'un enfant parte avant son parent. Sais-tu quoi? Puis, tu sais, il n'y a pas de mots. Puis, toi et moi, ni un ni l'autre, on sait ce qui se passe après, puis qu'on est capable d'expliquer pourquoi. Il faut essayer, pendant ce temps-là, de trouver une raison, trouver un sens. Tu sais, moi, à quoi je me suis souvent accrochée, ce que j'ai constaté, puis toi aussi, tu l'as constaté, tous les enfants qui partent, trop tôt, c'est tout le temps des vieilles âmes. Tout le temps. Fait que, à chaque fois, je me dis, c'est le temps qui devait lui rester. Tu sais, il faut que tu puisses t'accrocher à quelque chose. Moi, j'ai envie de croire qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a quelque chose qui vient après. Parce que c'est un non-sens de pourquoi un enfant part avant. C'est un non-sens que des gens qui vivent parfois des drames à n'en plus finir. Bon. Alors, moi, c'est à ça que je me suis accrochée. Et c'est souvent ça que j'ai dit aux parents. Tu sais, c'est le temps qu'il lui restait à vivre. Il est venu sur Terre pour vous enseigner quelque chose, vous partager quelque chose. Et là, après ça, faut que tu vives pour deux. Tu sais, faut que tu vives pour cette personne-là qui n'est plus là. Faut que tu vives pour toi-même aussi. Tu sais, on ne détient pas la vérité. On ne sait pas c'est quoi. Mais il faut que tu puisses être capable de continuer. Puis, continuer à profiter de la vie, pareil, parce que c'est un deuil, puis c'est difficile, puis je pense jamais que tu t'en remets, mais il faut que tu trouves une façon de continuer de trouver un sens à tout ça.
À vibrer malgré l'absence de l'autre, tu sais.
Tout à fait.
Et faut que je le dise en début d'entrevue, Chantal et moi, nous, ça fait 40 ans qu'on se connaît, hein. T'sais, on s'est connus au cégep, André Grasset. Puis, évidemment, tu sais, quand tu regardes dans le temps, pensais-tu que tu aurais cette vie-là, toi, quand tu étais ado? Tu as 16, 17 ans, tu rentres au cégep, tu te vois 40 ans plus tard, penses-tu que c'est ça que ta vie
pas
va ressembler?
Pas du tout, tu sais, puis vraiment pas. Pis c'est drôle parce que quand ça a commencé à. Tu sais, c'est quand j'ai commencé à faire donner au suivant, vraiment ce moment-là. T'sais, je me souviens, mes parents à ce moment-là m'ont dit enfin. C'est tu fais quelque chose qui te ressemble. Alors que pour moi, faire ça, c'était pas un métier, c'était pas une façon de gagner ma vie, tu sais, c'était quelque chose que je faisais dans ma vie personnelle.
Oui.
Tu sais, mon bénévolat, à l'aider, essayer de faire attention, pas traiter les autres comme tu veux être traité, bon, comme tu les traiter comme tu souhaites être traité, puis ne pas les traiter comme tu ne peux pas être traité. Mais tu sais, c'est arrivé vraiment plus tard dans ma vie qu'à un moment donné que j'ai constaté que, et si je pouvais faire ça et gagner ma vie avec ça, ce serait-tu pas merveilleux de pouvoir se lever le matin puis dire, moi, je m'en vais procurer du bonheur. Mais t'sais, pendant beaucoup plus que la bonne partie de ma vie, j'ai jamais pu voir comment tout ça était possible. Jusqu'au jour où, en faisant un show qui s'appelle SOS Beauté, j'ai rencontré une coach de vie qui m'a initiée au tableau de visualisation. Chose à laquelle je ne croyais pas. Vous savez, moi, dans la vie, tu veux quelque chose pour, travaille pour, puis la visualisation, pour moi, c'est du pelletage de nuages. Jusqu'à temps que je commence à dire, OK, j'essayais de visualiser qu'est-ce que je veux dans ma vie, tu sais. Qu'est-ce que je souhaite, tu sais. On a des agendas, ça, on est réglé au quart de tour dans nos cours, nos ci, nos ça, tu sais, mais, et même, je te dirais que ma fille, je veux dire, je règle sa vie au quart de tour, tu sais, mais moi, tu sais, où est-ce que je me place là-dedans? Quand j'ai commencé à faire de la visualisation, c'est là qu'on dirait que les choses se sont placées, puis j'ai été capable de finalement vivre du travail auquel j'aspirais.
C'est quoi la première chose que tu as mise sur ton tableau de visualisation?
Ça a été faire du bénévolat, parce que moi, j'en faisais déjà beaucoup.
Ouais.
Et ça me, je dirais, ça me comblait comme... Ça me comblait tellement. J'avais le cœur gonflé quand à chaque fois je partais d'une journée où j'avais fait du bénévolat. Ça donnait un sens à ma vie. Je me sentais utile.
C'était quoi que tu faisais concrètement comme bénévolat?
C'était plein de fond. J'étais beaucoup dans les résidences de personnes âgées. J'ai toujours eu une attirance pour les personnes plus âgées, tout le temps. Alors, c'était beaucoup là. J'allais faire du bénévolat là. Je donnais du temps, etc. Alors, c'était beaucoup ça. Bon, il y a eu plein de trucs, les télétons, aller dans les centres hospitaliers parce que j'étais toujours impliquée un peu à chaque fois. Mais le gros de mon temps, c'était ça. Beaucoup les paniers de Noël, faire du tri aussi pour, les jouets pour les enfants, etc. Fait que c'était un peu ça. Mais j'allais souvent à la rencontre des personnes âgées. Et je trouvais donc qu'on leur laissait pas assez de place. Juste s'asseoir, les écouter. Je trouvais tellement c'était enrichissant à chaque fois. Et puis je me disais, mon Dieu, si j'avais du temps pour en faire davantage, tu sais, il me semble que ce serait super extraordinaire, ma vie, mais je peux pas, il faut que je gagne ma vie, tu sais. Et quand j'ai fait SOS Beauté, on avait une coach qui nous a fait faire une roue de visualisation, puis j'avais marqué faire du bénévolat. Si je pouvais faire du bénévolat davantage, je serais vraiment heureuse, mais je vois pas comment, dans mon horaire de fou, c'est possible, tu sais. Je vois pas où je serais capable d'en mettre davantage. Et puis, bang, est arrivé le concept de nos suivants, qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe avec des amis qui sont venus nous aider à planter des vivaces, tu sais, parce que mon chum et moi, on en avait acheté beaucoup trop. Et puis, avant 11 heures le matin, c'est 8 chums qui débarquent pour nous aider à planter. On a planté sans arrêt jusqu'à 20 heures le soir. On les a invités à souper, c'est la moindre des affaires, tu sais, à faire. Et là, je me suis dit, mais tu sais, comment on va faire pour vous rendre l'appareil? Puis, ils m'ont dit, arrête, combien de fois vous êtes là pour nous donner un coup de main? Puis là, c'est autour d'une bouteille de vin qu'on s'est mis à refaire le monde. On en dit-tu des affaires autour d'une bouteille de vin, tu sais? Encore plus quand il y en a deux ou trois. Et puis on s'est dit, il me semble que dans le temps de nos grands-parents, la société était tellement plus collective, puis moins individualiste. Et c'est comme ça, en revenant le lendemain au bureau, que j'ai parlé de ça à ma gang, parce que j'étais déjà en production dans ce temps-là, je faisais déjà des shows de télé. Et c'est là qu'on m'a parlé du film « Paye au suivant
»,
que j'avais pas vu, puis que je suis allée louer. Et puis là, je me suis dit, OK, comment je fais pour créer une série télé mais que ça reste intéressant, parce que si je suis quelqu'un du début jusqu'à la fin, à la fin de ma série, on va être en train de changer des pneus, ça sera pas intéressant. Pardon. Et là, le concept est arrivé comme ça. Et puis là, depuis, tu sais, touche du bois, j'arrive à gagner ma vie.
En faisant du bien.
En aidant, puis en faisant une différence.
En faisant du bien, puis, tu sais, je disais tantôt qu'on se connaissait depuis longtemps. Moi, j'ai eu le bonheur de connaître ta famille, tu sais. Je suis allé chez vous, ta maman. Puis tu sais, ça aussi, c'est important, nos racines, tu sais. Ouais. Est-ce que tu es capable de remonter à ton enfance, à l'éducation, les valeurs de tes parents qui expliquent cette espèce d'élan de tendre la main? Ouais. Ben c'est arrivé comment? C'était qui? C'est plus ta mère ou ton père?
Ah, c'est les deux.
Ah oui?
À différents niveaux. Tu sais, ma mère, elle, était très, très, très croyante. T'es catholique, très croyante. Moi, j'ai monté les marches de l'oratoire à genoux. Fait que, tu sais, parce qu'elle avait fait une neuvaine et puis ça s'était réalisé. J'ai jamais su c'était quoi qu'elle avait demandé, que c'était exaucé. Mais en tout cas, j'ai fallu que je monte les marches de l'oratoire à genoux. Ma mère, donc, pour elle, ça, c'était très important, tu sais, de l'entraide. Ma mère, ça faisait partie au sein de ses valeurs, tu sais. Mon père, chef syndicaliste, qui, lui, est un gars d'équipe, donc, faut être là encore une fois pour aider les gens, etc. Mm-hmm. Mon père est arrivé au pays à 14 ans. C'est un Français que, c'est sa mère a connu la Deuxième Guerre mondiale. Son père aussi, ça va de soi. Mais je veux dire, ils sont arrivés ici dans la pauvreté. Il n'y avait que 70$ en poche. Sa sœur, lui, ses parents. Fait qu'il a connu ce que c'était que de survivre. Quand il s'est retrouvé donc dans le mouvement ouvrier parce que, bon, tu sais, il voulait améliorer les conditions des gens, etc. Oui. Fait que les deux, à leur façon, tu comprends, m'enseignaient l'importance d'être une fille d'équipe, de faire une différence, d'aider, la solidarité humaine, traite pas les autres, tu sais, différemment que toi, tu veux être traité. Fait que, tu sais, à leur façon, tous les deux m'ont inculqué ces valeurs-là, tu sais. Tu sais, jeune, je me souviens, c'était un running gag chez nous. C'était comme, j'allais d'un party, on faisait cuire des hamburgers. Moi, je prenais l'hamburger brûlé parce que personne ne le voulait. Le chien, mon premier chien que j'ai adopté, j'ai pris le plus laid de la portée parce que je dis, il n'y a pas personne qui va vouloir l'adopter. Tu sais, ça a été, ça a tout le temps été, on dirait, dès mon jeune âge, tout mm-hmm. ça, tu sais. Fait que non, ça vient beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes parents.
De tes
ça.
Parents.
Oui, définitivement.
Ta maman est décédée, ça
ouais.
fait quoi? 10, 11 ans?
Ouais,
2012?
Ouais. 2013.
2013, ta maman, ça fait 10 ans, tu sais. On parlait tantôt des pertes puis du deuil. Mm-hmm. Comment tu vis le deuil d'une maman qui a été aussi importante et aussi riche dans ton cœur?
Hey, my God, ça fait longtemps que je ne parle pas. Ça fait monter des émotions. Tu sais, ma mère, c'était ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie, puis c'est celle qui était capable de tout me dire et qui savait à quel moment me le dire. Tu sais, dans le milieu dans lequel on est, des fois, il y a des moments où on se fait rentrer dedans, c'est difficile, puis c'est pas à ce moment-là qu'il faut que tu dises, ben oui, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu as fait, tu sais. Fait qu'elle attendait, je sois plus forte, me dire, tu sais, t'aurais peut-être pas dû le faire comme ça, tu sais. C'était celle aussi qui me poussait beaucoup parce que je suis très timide. Ça, c'est, les gens voient pas ce côté-là, mais je le suis. Fait que ma mère avait du chien tout le tour, puis avait du front tout le tour de la tête, tu sais. Fait qu'elle, elle me poussait beaucoup, beaucoup, vraiment à m'accomplir, mm-hmm. de pas avoir peur d'aller au bout de mes rêves, puis de me dire, t'es bonne, t'es capable, puis bon, tu sais. Je dirais que c'est drôle, quand ma mère est décédée, tu sais, puis on savait que ça allait être ça. Elle me, tu sais, puis là, je disais, comment je vais faire? Tu sais, comment je vais faire, mamie? Parce que c'était vraiment ma meilleure amie, c'était ma complice. Elle me disait, t'es tellement correct. Je t'ai tellement préparé pour tout ça. Je t'ai préparé pour tout ça, puis tu vas tellement être correct, tu sais. Puis, tu sais, ça, c'est sûr, ça laisse un gros deuil, tu sais. Mais elle avait raison, tu sais, je suis correct. Aujourd'hui, je revois le pattern avec ma fille. Je suis tellement émotive, excuse. Mais je revois le pattern avec ma fille. Mm-hmm. Si je peux être le dixième de ce que ma mère a été, là, my mm-hmm. God, que je vais être une bonne mère, tu sais. Puis j'ai l'impression que je répète les mêmes affaires avec ma fille, les enseignements que ma mère a pu me partager, la façon d'être. Peut-être pas aussi sévère que ma mère. Ma mère, c'était quand même assez rigide. J'avais une discipline en maison, mais en même temps, c'était tellement un gros cœur sur deux pattes. Fait, j'essaie de répéter les choses avec ma fille, puis je nous vois des fois. J'ai l'impression de voir mini-moi avec ma mère. T'sais. Fait que quand elle disait « tu vas tellement être correct », elle avait raison, puis elle a eu le bonheur quand même de connaître Camille. Camille est décédée, ma mère, elle avait un an, Camille. Mais ma mère levait aller, puis elle me disait, tu sais, ça va être correct, mais elle me disait, sois plus ferme. Ah. C'est la seule chose que je te demande, d'être plus disciplinée que ça. Je t'ai montré à elle d'avoir plus de caractère face à ta fille. Mais non, c'est ça, ça t'accompagne. Puis il y a plein de moments comme ça, des fois, que les émotions montent parce que, tu sais, quelqu'un te parle de ta mère.
Ben, surtout ceux qui l'ont connue. Moi, je l'ai vue, ta maman, tu sais, une fois dans ma vie, au moins une fois quand
t'en j'avais...
T'en souviens? Ben oui, puis j'étais allé chez vous, j'étais allé te reconduire, on avait été au cinéma.
Ouais.
Puis ta mère, je pense qu'elle était minuit moins 5, elle me dit, veux-tu un hamburger?
Ouais, ouais.
Ça, c'est je suis sûr qu'elle n'a pas été brûlée, celle-là.
Non, ça c'est sûr.
Mais en même temps, c'est de voir cette chaleur-là de t'accueillir chez elle, parce que vous n'êtes pas 15 enfants chez vous, là.
Oui, c'est enfant unique. Puis, mais honnêtement, chez nous, on a toujours eu de la place pour accueillir, tu sais, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Moi, je suis une fille de gang parce que mon père accueillait les grévistes à la maison. Ouais. Ma mère, il y avait de la bouffe, tu sais, pour tout le monde. Fait qu'on a toujours été les rassembleurs. Puis vois-tu, ça vient de mes parents, ça vient de ma mère. Ça, ce côté-là, le côté, tu sais, inviter le monde à la maison, faire le party, décorer, tu sais, que tout le monde s'amuse, ça, c'est le côté définitivement de ma mère qui, elle, a fait le choix d'être une maman à la maison parce qu'elle n'avait pas la santé pour travailler à l'extérieur. Fait que chez nous, tu sais, il y avait de la place.
Ta maman?
À plusieurs choses. Très jeune, elle a commencé à être malade. On n'a jamais vraiment trouvé vraiment c'était quoi non plus qu'elle avait. Il y a sûrement un peu de fibromyalgie là-dedans, peut-être au bout de la ligne.
Ça n'existait pas dans le temps.
Ça n'existait pas dans le temps. Tu sais, mais avec le recul aujourd'hui, je te dirais qu'il y a peut-être de ça aussi. Bon, diabétique. Puis après ça, il y a eu les cancers, évidemment, qui sont arrivés par la suite.
Donc, ta maman, la femme chaleureuse, rassembleuse, organisatrice, puis ton père, c'était aussi quelqu'un de gang, de team.
Tout à fait.
Donc, tu as hérité des deux qualités. Pour avoir une boîte de production aussi longtemps, pour gérer des groupes, des projets de gang, il faut que tu aies ce genre de qualité-là. Donc, tu as la chaleur, mais tu as aussi la droiture.
J'ai la droiture.
La discipline.
Tout à fait.
Ton père, c'est ça.
Oui, ça vient sûrement aussi de mon père. C'est 10 têtes valent mieux qu'une aussi. Mm-hmm. Donc, ça aussi, ça vient beaucoup de mon père, définitivement. Fait que oui, il y a beaucoup de papas. Et il y a beaucoup de papas aussi dans « t'es une femme, va falloir travailler deux fois plus fort ». Il y a beaucoup de papas aussi là-dedans. Se battre pour le droit des autres aussi également. Pour une société meilleure, ça aussi, c'est papa, vraiment. Puis, si je regarde, ça reste encore tellement présent en moi encore aujourd'hui. T'sais. J'ai fait le choix volontairement de me retirer de la télé à un moment donné. Ça fait un petit bout. Je n'ai pas fait de télé. Ça a été volontaire. J'ai eu besoin de prendre soin de moi, prendre soin des miens, être là davantage pour ma fille. J'ai eu besoin de ça. Puis là, vois-tu, là, ça refait surface avec ma fille qui je trouve tellement me ressemble. T'sais, du haut de ses 13 ans, qui est en train de me dire, mais my God, vous êtes en train de nous laisser toute une planète. T'sais. Ma fille, elle a 13 ans, elle va aller travailler à l'ONU. Est-ce que c'est ça qu'elle va faire? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais elle veut défendre le droit des femmes, l'environnement. T'sais, je la vois du haut de ses 13 ans, déjà là, d'aller au front. T'sais. Puis, pour une société meilleure, puis là, je vois-tu ce désir-là, moi, là, revient, t'sais, de dire, OK, mais attends une minute, on s'en va-tu dans la bonne direction en ce moment, là, comme société? C'est épeurant vers où on va. On regarde ça, puis on fait comme, écoute, par où commencer, je ne sais pas, il n'y a personne qui fait rien, mais justement, je suis une personne, tu sais. Fait que c'est ça qui m'avait alimenté au départ avec Donner au suivant.
Ouais.
Puis à un moment donné, j'ai eu besoin de prendre du recul pour... On dirait que je m'étais perdu de vue dans tout ça à un moment donné.
Et mais là, c'est devenu tellement gros.
Ah, c'est devenu
beaucoup
gros.
Plus gros que tu l'avais visualisé.
Exactement. Puis on dirait, à force d'être là pour tout le monde, c'est comme si je m'occupais pas de ma petite société intérieure pendant ce temps-là, si on peut dire les choses comme ça. Fait que je me suis perdu de vue là-dedans. En même temps, ça me permettait de mettre un plaster sur le bobo. Pendant que tu regardes les autres, tu n'as pas trop à te questionner, toi, de ton bord. Puis quand le monde me disait autour de moi, c'est « j'espère que tu prends soin de toi », j'ai dit « moi, quand ma marmaille est heureuse, moi, je suis heureuse », puis on est une maudite gang à dire cette phrase-là.
C'est vrai.
On est une maudite gang à dire ça.
C'est bizarre peut-être comme question, mais vous êtes trois, ton père, toi et ta maman. Ta maman décède. Pour un homme qui était avec une femme, moi, j'ai eu beaucoup de peine de voir mon père avoir de la peine d'être en deuil, tu comprends? Comment a été la transition d'une vie à trois à deux? Parce que même si tu n'es plus sous le toit avec ton père, tu restes sa fille. Lui, c'est ton père. Puis on dirait que notre attention puis notre amour se revirent juste sur une personne dans ce temps-là. Ça a été quoi la dynamique à deux après?
Écoute, évidemment, d'être j'étais beaucoup très présente, puis mon père était très présent chez moi aussi, mm-hmm. à ce moment-là aussi également. Ça nous a beaucoup rapprochés. Tu sais, mon père, tu sais, ma mère, là, c'était celle qui me disait, tu sais, fais attention à toi, tu sais, c'est une chose de réussir dans la vie, je mais c'est réussir sa vie, c'est bien plus important, tu sais.
Ouais.
Mon père, c'est l'homme de carrière, tu sais. Alors, lui, c'est l'homme, OK, bon, tu fais ça, là, c'est bon, hein, qu'est-ce qu'il y a après, tu sais. Fait que mon père, c'était toujours ça aussi, tu sais. C'est quoi la prochaine étape, c'est quoi de bon. Et je te dirais que quand ma mère est partie, puis là, je me suis rapprochée beaucoup de mon père. Je pense qu'il a vu un autre aspect de moi. T'sais, lui a cherché tout d'un coup à me protéger.
Mm.
Puis il a compris que la carrière n'était pas tout. Puis autant moi, de mon bar, je te dirais que j'ai vu pour la première fois la vulnérabilité de mon père. Parce que mon père, c'était le plus fort. Puis mon père, c'est pour avoir fait le métier qu'il a fait, il a fallu qu'il soit solide en tabarouette, tu sais. Fait que jamais j'ai vu mon père faible, jamais j'ai vu mon père pleurer, jamais. Puis mon père, c'était Monsieur Solution tout le temps. C'était toujours celui qui avait les mots adéquats au bon moment. Là, cette période-là, j'ai touché à sa vulnérabilité. Puis je me souviens, ici, il pleurait, puis il disait, tu sais, j'ai tellement aimé ta mère, tu sais, je m'en remettrai jamais, c'est la femme de ma vie.
Mmh.
Puis je me souviens d'avoir dit à mon père, ben, vois-tu, t'es triste, puis je comprends que c'est difficile, mais trouve-toi chanceux parce que t'as connu l'amour. Il y en a de toute leur vie qui n'ont pas ce privilège-là de connaître l'amour, le vrai, tu sais. Alors, tu sais, t'as eu le privilège de le connaître, cet amour-là, tu sais. Alors, fait que ça a été, je dirais, une période quand même pas facile, tu sais. Et puis, ça reste quand même, tu sais, même si mon papa, il a une blonde, puis magnifique, rose, il reste pareil que... Tu sais, je sais qu'il y a des périodes de l'année difficiles encore. Il y a des moments qu'on se met à parler de ma mère où ça vient l'ébranler. Tu sais, comme on disait, tu sais, un deuil, c'est pas facile. Tu t'apprends à vivre sans, mais ça veut pas dire que t'oublies pas, t'oublies jamais. Tu sais. T'apprends juste à vivre sans.
Surtout quand t'as aimé une personne pendant 10, 20, 30, 50 ans de ta vie. C'est beaucoup de place dans ton cœur pour une personne. Et quand cette personne-là décède, c'est un gros trou. Hein? Mm-hmm, ça fait mal. Tu sais? Alors, ça peut prendre du temps avant de vivre avec un certain confort, avec l'absence. Tu sais? Puis moi, j'ai l'impression que toi puis moi, on va puiser beaucoup de courage et de résilience dans les exemples qu'on côtoie, dans le bénévolat, dans les émissions, les entrevues que tu fais. Il y a beaucoup de gens qui doivent t'inspirer pour te donner du gaz, tu sais.
Énormément.
Pour les épreuves que tu vis. Puis, tu sais, t'as passé au feu il y a une couple d'années. Mm-hmm. Ça en est une pas pire épreuve parce que, allô, les souvenirs, c'est parti, là.
Tout à fait, mais les plus grands sont dans le cœur, sont dans la tête. Ça fait cliché, hein, mais écoute, je me souviens, tu sais, quand on est passé au feu, là, Camille et moi, on pleurait, là, puis on regardait la maison brûler, puis je me suis ressaisie assez vite. Tu sais, je me souviens, je suis face à la maison qui pleure, qui flamme, là, puis Camille pleure, puis là, je me tourne à un moment donné, puis je dis à Cam, OK, non, ça va faire. T'sais, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qui nous arrive, tu sais? Puis là, on s'est regardé, puis là, les deux ont fait comme, on est en vie, tu sais, on est en vie, tu sais, c'est la première étape, tu sais. Très vite, les deux, puis je regarde Camille, là, puis, tu sais, j'ai une photo d'elle qui a été prise un an, jour pour jour, dans l'appartement qu'on avait loué. C'est un an, jour pour jour, après l'incendie. Cette photo-là, pour moi, est tellement symbolique parce que je vois tout le bien-être qui se dégage du visage de ma fille. Puis ça me confirme que toute épreuve, aussi difficile soit-elle, n'est pas destinée à nous briser, mais à nous rendre plus forts. Tu sais, mais tout ça part de l'attitude qu'on choisit d'avoir. Jean-Marie.
C'est un choix.
L'attitude qu'on choisit d'avoir.
Être heureux, c'est un choix.
Puis ça s'entretient, puis ça, j'aime pas le dire le mot travail, mais oui, ça se travaille, tu sais. C'est un choix. Puis tu sais, quand tu dis, toi, t'as rencontré, tu sais, plein de monde. Moi aussi, j'ai côtoyé plein de gens en fin de vie. Tu sais, je pense entre autres à une Joliane, ce qui était mon premier épisode dont on est face, on recommence,
ben
c'est Joliane Fortier, qui disait, je ne changerais rien à ma vie, même si la fin, ce n'est pas celle que j'aurais choisie, là, je ne changerais rien à ma vie. Mais elle, jusqu'à la dernière seconde, tu comprends-tu, elle était dans le sourire, elle était, puis elle disait...
Elle était belle.
Elle était belle, puis elle était, ça avait le cœur gros, puis elle accueillait les gens, puis elle disait, mon Dieu, si je suis décédée à 90 ans, je suis même pas sûre que j'aurais autant de monde, j'aurais eu autant d'amour, tu comprends-tu, elle voyait ça d'une autre façon. Puis à chaque fois, je me disais, je sais pas quand, comment je vais partir, mais j'espère avoir cette résilience-là, j'espère. Puis je pense sincèrement que dans la vie, on a le choix, même quand on pense qu'on ne l'a pas, on a le choix de l'attitude qu'on choisit d'avoir face à ce qu'on vit.
Avoir dans le cœur cette paix.
Ouais.
C'est une paix intérieure que tu meurs à 18 ou à 107 ans. Si tu as la paix en toi, tu es en paix avec ta vie, puis tu es en paix avec le moment du mourir. Ouais. J'ose croire.
Tout à fait. Puis pour être en paix avec soi-même, ça veut dire régler des choses au fur et à mesure.
Voyager léger.
Ouais, c'est en plein
ça. C'est ça, hein?
C'est pas transporter une haine, c'est pas... Aussi, s'il y a quelque chose avec quelqu'un que tu as décidé de mettre fin, mais tu choisis de mettre fin à cette relation-là, mais c'est correct, tu choisis de mettre fin, mais ne... J'ai toujours la même chose, que ferait l'amour, tu sais, c'est, je choisis de mettre fin à une relation parce que cette relation-là ne me nourrit plus, ou cette relation-là me rend triste, ou cette relation-là m'affecte et ne contribue plus à mon bonheur, ça m'est arrivé, là, ça m'arrive.
Ben oui.
Bon, mais où j'arrive à continuer, c'est que je ne souhaite pas rien de méchant à cette personne-là. Je lui souhaite de l'amour, tu comprends-tu, du bonheur. Bon, alors, à partir du moment où je suis en paix avec ça, cette relation-là, ça vient, je veux dire, honnêtement, ça laisse de la place.
Ça dégage.
Ça dégage.
Hey, ça, là, ça vient-tu de toi ou de Rémi Tremblay ou de Nicole Bordelot? Parce que je le cite souvent, moi, Nicole. Que ferait l'amour? C'est-tu toi qui as parti ça?
Non, c'est pas moi. Moi, c'est Christine Michaud qui me l'a répété.
Ça fait partie de la même secte, hein?
C'est toute la même secte. La même gang, ça.
Et que ferait l'amour? Quand tu es devant une situation et tu sais pas quelle donner, quelle réponse ou quel sens donner à ça, et que ferait l'amour?
Que ferait l'amour? Puis il y en a plein qui comprennent pas cette tabarouette de phrase-là, mais que ferait l'amour? Tu sais, t'es dans une situation, il y a quelqu'un qui t'es choqué après quelqu'un, t'es dans une situation, dans un contexte que, mon Dieu, que ferait l'amour?
Ouais.
Ben, l'amour, tu sais, elle serait pas vengeance.
Non.
Tu sais, l'amour serait pas amer, l'amour, tu comprends-tu?
De la bonté.
C'est justement, ça veut pas dire, tu comprends-tu, d'en donner davantage, ça veut pas dire ça, mais c'est juste dans ton attitude face à l'autre personne.
Et ça veut pas dire rester dans la relation toxique.
Non, évidemment.
Ça veut pas dire ça.
Ça, c'est important. Ouais. Ça veut pas dire rester là, puis endurer, puis encaisser. Ben non, tu sais, parce que ferait l'amour? Pas juste face à l'autre, face à toi-même aussi. Que ferait l'amour face à toi-même d'abord et avant tout? Ça, je l'ai appris. J'ai appris ça sur le tard.
Ouais.
C'est ça, c'est quand ma mère est partie, qu'elle me disait, tu sais, bon, tout le monde le connaît, l'adage, j'arrête pas de dire je me choisis, tu sais, parce que ça a été les mots que ma mère me dit, tu sais, si tu choisis pas, je sais pas qui va le faire à ta place. Fait qu'apprends à choisir ma fille. Puis ça a été les paroles qu'elle m'a dites avant de partir.
Oh, wow.
Ça et la santé te fait flotter au-dessus de la réalité. Ça, ça a été les deux phrases.
C'est donc bien beau.
Ouais. La santé te fait flotter au-dessus de la réalité. Quand tu as la santé, tu as l'impression que tout est une priorité autour de toi, mais le jour que tu la perds, et tabarouette que tu en laisses tomber des affaires, puis les priorités viennent de se réaligner, tu sais. Ça a été les deux phrases. C'est, puis le « je me choisis », c'est « je l'enseignais partout », tu sais, je fais des conférences, je le répète, tu sais. Puis tout le temps, finalement, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre.
Ouais,
parce que ça faisait longtemps que j'avais arrêté de me choisir. C'est drôle parce que ma cocotte, à un moment donné, tu sais, il est arrivé un contexte, c'est... Là, elle qui me dit, à ce moment-là, elle a 9 ans, tu vois, tu sais, 9 ans, elle me dit, tu sais, mais il n'y a rien d'égoïste à choisir, hein. Tu sais, on est la personne la plus importante au monde. Puis moi, tu dis, mais c'est qui t'a enseigné ça? Puis là, c'est comme toi, maman, tu sais. Mais tu comprends, tu sais, c'est le naturel revient vite au galop.
Mm-hmm.
On s'oublie facilement, tu sais. Puis sincèrement, à un moment donné, en cours de route, j'ai réalisé que me choisir, il n'y avait rien d'égoïste. Au contraire, tu sais, quand je me mettais à l'agenda, quand j'avais des moments pour moi, quand j'avais commencé à apprendre à dire non, ben il y avait moins de frustration face à plein de choses autour de moi, tu sais.
Puis plus on avance, plus on trouve que non est une phrase complète.
Ouais.
On n'a pas besoin de trouver des excuses, non, parce que, ou non, il faut que je me justifie. Non, je veux pas aller là, c'est non. Ouais. Personne ne te demande, veux-tu aller quelque part avec moi en fin de semaine? Puis toi, tu sens que tu as besoin de prendre du recul. Ouais. Tu dis non. Merci. Bon week-end.
Ouais. Hein? Mais c'est, je te dirais, tu as raison. Tu as tout à fait raison, mais ça prend un temps.
Oui.
Être capable de faire ça. Ouais. Surtout quand tu es d'une nature
à être généreuse.
Bon, apprendre à dire non.
Ouais.
Tu sais, je me souviens, dans ma quête de bien-être, ça avait été un exercice que mon psychologue m'avait fait faire. Pendant une semaine de temps, tu vas apprendre à dire non.
Non.
Quand ça ne te tente pas, sans expliquer pourquoi. Les noms, je te dirais sincèrement, il y a une, ça, pendant un bout, je n'ai pas trouvé que ça... J'étais un être humain tout à fait extraordinaire à cette période-là. Je n'ai pas trouvé que...
Tu ne t'aimais pas à dire non.
Je ne m'aimais pas à dire non. Je trouvais que je n'étais pas un être humain extraordinaire.
Ouais.
Je ne trouvais pas que j'étais en train de devenir une meilleure version de moi-même.
Ouais.
Parce que le non... fait pas plaisir à ton entourage que t'aimes, tu sais.
Non.
Mais ça laisse encore une fois place à autre chose. Puis sais-tu quoi? Tu réalises que le monde autour de toi survit.
Oui, puis tu sais, ce à quoi tu dis non, c'est parce que tu dis oui à autre chose.
Tout à fait.
Quand tu dis oui à de quoi, c'est que tu dis non à autre chose. Mais tu connais l'expression « trop bon, trop con ».
Ouais,
hein?
Tout à fait.
Des fois, être trop gentil, trop fin. Puis tu sais, des fois, on n'aime pas faire de la peine à quelqu'un. Ouais. Donc, on va dire oui. Mais en même temps, entre nous, là, il y a une petite voix qui dit « Pourquoi tu te dis oui? »
Exactement.
Donc, c'est aussi de se donner de l'amour. Ouais. Alors, on va prendre une petite pause. Ben oui. On va se donner de l'amour en écoutant une petite transition musicale. Puis, vous avez sûrement reconnu la voix de notre belle Chantal Lacroix. Elle va être avec nous pour la prochaine demi-heure. Petite pause. Puis après ça, on s'amuse à piger dans le chapeau magique avec des questions.
Ah, OK.
Ouais.
Okay.
Ici Jean-Marie Lapointe, vous écoutez l'émission Porte-parole. Mon invité aujourd'hui, Chantal Lacroix. Chantal, tu sais, tu as fait des tonnes d'entrevues. Souvent, l'entrevue, elle se déroule devant toi. Ton plan de match, tu le mets de côté. Hein?
Ouais.
Moi, j'avais un plan de match pour toi.
Je m'excuse.
Tu n'as pas à t'excuser.
Je m'excuse.
Parce que tes réponses étaient plus intéressantes que les questions que j'avais préparées.
Je pensais que tu faire plus court.
Non, c'est pas ça. Mais tu sais, l'émission Porte-parole, c'est pour donner l'occasion à nos invités d'exprimer pourquoi ils sont porte-parole, de quoi ces gens-là sont porte-parole. Donc, évidemment, tu es impliqué au niveau de la prévention des incendies, puis des petits trésors. Tu en as fait des affaires, toi.
Oui, je te dirais, là, vraiment, la cause que j'endosse, c'est celle de la Fondation des petits trésors, vraiment, pour l'instant, qui est pour la santé mentale des enfants. Puis là, ça va être ma sixième campagne de levée de fonds, où est-ce que les gens peuvent aller acheter des doudous dans les pharmacies Jean Coutu.
J'en ai apporté une
doudou. Et là, on a marqué « moment de douceur » parce que, my God, que je trouve que c'est ce qu'on a besoin en ce moment, des moments de douceur avec tout le contexte actuel qu'on vit. Puis j'ai choisi cette cause-là parce que c'est le parent pauvre du système de la santé. Ben, tu sais, il y a juste 5 % attribué à la santé mentale, mais là-dedans, c'est 5 % que les adultes. Fait qu'il en reste des miettes pour les enfants. C'est pas toujours écrit dans le front d'un enfant qui est dépressif ou qui souffre d'anxiété ou qui est TDA, TDAH ou, tu sais, et puis même, tu sais, nous autres, la Fondation, c'est même le spectre de l'autisme aussi également. Puis j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants autistes. Puis j'y vois comment des fois ça les isole, tu sais, comment c'est pas facile. Alors c'est pour ça que j'ai choisi d'endosser cette cause-là. Puis j'ai l'impression qu'à chaque année, on dit que les besoins sont criants, mais on dirait que cette année, c'est pire que jamais.
Ça crie fort, les besoins.
Ça crie fort, tu sais. C'est 2 enfants sur 5 qui vont avoir un enjeu de santé mentale. C'est 10 % des enfants de 10 ans et moins qui ont déjà pensé au suicide, mais pas juste j'y pense. Genre, je consulte parce que je suis rendu là, tu sais. Fait que, alors, on a besoin, tu sais, oui, la recherche, mais soutenir les parents qui sont démunis, qui savent plus à un moment donné comment s'y prendre pour soutenir l'enfant, surtout quand la liste d'attente pour rencontrer un psychologue ou un psychothérapeute, c'est 6 mois, c'est 8 mois, tu sais.
Mais c'est arrivé à toi comment, ça?
C'est arrivé à moi parce que, je te dirais, premièrement, j'ai Sylvie Lauton qui a un enfant autiste.
Yes,
ça. Ça, c'est une bonne amie à moi, puis elle était directrice générale de la Fondation des petits trésors. Fait qu'elle, c'est la première. Puis après ça, dans On efface, on recommande, j'ai rencontré plusieurs mamans qui avaient des enfants autistes. Je voyais leur réalité. Je trouvais que c'était des saintes. Je trouvais que c'était tellement pas évident. Elles étaient laissées à elles-mêmes. Et de ces participantes-là sont devenues des amies à moi. Nathalie Cloutier est devenue une amie. Et là, vraiment, pour moi, c'était l'évidence même que cette cause-là, on dirait qu'il y avait personne qui la portait. C'est pas sexy. C'est plate que je vais te répondre, mais c'est pas apparent. Fait que, tu sais, un enfant qui a un cancer, qui a pas de cheveux, tu fais comme, oh! Tu sais, là, je suis pas, tu comprends, je suis pas en ce moment là en train de dire qu'il n'y a pas une cause qui est mieux que l'autre. Tu sais, elles sont toutes valables, mais c'est pas visuel. Tu sais, l'enfant malade, tu le vois, il n'y a pas de cheveux, il combat, tu sais, la leucémie, etc. Ça paraît pas. Tu sais, les enfants autistes, tu les vois à des endroits, souvent, sont gourmands, ils se mettent la main dans le plat, les gens vont juste dire, mon Dieu, qu'il est mal élevé, ton enfant, puis tu sais, alors qu'il est autiste, tu sais.
Ben oui.
Alors, c'est comme la cause qu'on dirait que personne défendait.
C'est pas une cause sympathique, puis c'est pour ça que c'est drôle, c'est le t-shirt que je porte aujourd'hui, la Fondation.
Ben oui, tout à fait.
Héros et Louis, tu sais, alors, c'est-tu une cause qui tombe d'un crack du système, l'autisme?
Tout à fait.
L'autisme, puis tu sais, un enfant, quand il est dans une structure, dans des écoles spéciales, jusqu'à l'âge de 21 ans, il est pris en charge. Mais les adultes, autistes, TSA, moi, dire, ils sont tout seuls au monde. Hein?
Tout à fait. C'est pour ça que si on peut investir dans nos jeunes, on en fait des adultes plus outillés. La Fondation des petits trésors, ben elle, c'est pour les enfants et adolescents, mais partout à travers le Québec. Fait quand vous allez chez Jean Coutu acheter un jeté de 20 $ ben c'est tous les enfants du Québec qui en profitent.
Fait que
c'est la cause. Pas bravo, mais c'est la cause que j'ai choisi d'endosser. Tu sais, à un moment donné, on se fait solliciter.
Tu l'as choisi.
Oui. Ah,
j'aime beaucoup le mariage des deux. Tu l'as choisi, mais elle est venue te chercher aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Elle t'a séduit.
Oui, tout à fait.
De toute façon, des causes, je pense que tu n'es pas à veille d'arrêter d'en endosser puis d'arrêter de faire du bénévolat. De toute façon, le plus beau bénévolat, c'est avec ta fille, Camille. Tu sais, d'être maman, c'est du bénévolat. On s'entend. On n'est pas payé pour être papa ou maman. Mais, tu sais, je trouvais ça important de te recevoir à cette émission-là. Puis, mon Dieu, que c'était pas évident avec nos agendas parce qu'on est tous les deux à s'occuper. Puis, tu sais, quand je regarde ma relation avec toi, on a fait des émissions de télé. T'as été à TQS, t'as été à Canal Vie, t'as été à beaucoup de postes, tu sais. Puis, je t'ai toujours suivi. Tu sais, t'avais ton talk show, t'avais plein d'affaires, tu sais. Puis, je me rappelle. C'est donc le fun de voir nos carrières évoluer en parallèle puis finir toujours par « oups, on se recroise, on s'invite ». Puis évidemment, j'ai plein de questions pour toi, mais je préfère que le chapeau décide avec l'aide de tes doigts pour les prochaines questions.
OK, vas-y, je te donne la question.
Tu la lis. C'est toi qui la lis, comme une grande fille.
J'ai écrit assez gros, j'ai pas mis lunettes. OK, parfait. Une journée parfaite pour toi, ce serait quoi? Ah, une journée parfaite pour moi, c'est d'être entourée de ça fait cliché, là, mais d'être entourée de ma gang que j'aime, donc ma famille, mes amis, et faire la fête. Faire la fête. Manger, boire du bon vin, faire la fête, faire le party, danser, s'éclater. Moi, j'aime stimuler tous les sens, tu sais.
Tellement, là, évidemment, il y en a qui te regardent.
Oui.
Mais ceux qui nous écoutent, c'est que tu fermes les yeux quand tu me réponds. Là, tu fermes les yeux, là, petit, je te vois imaginer la scène. Là,
Moi, j'aime que tous les sens soient stimulés, tu comprends? Fait que, tu sais, je voudrais être dans un endroit, tu sais, ben, tant qu'à faire, tu me dis la journée parfaite, écoute, puis je veux les palmiers, je veux la mer devant moi, là, tant qu'à faire, tant qu'à rêver grand, là, tu sais. Puis j'ai avec moi, tu sais, tous les gens que j'aime. La journée parfaite, là, c'est si je pouvais amener, tu sais, mais tout le monde, tu sais, parce que tu m'as donné la possibilité de remplir un avion, tu comprends, tu sais, puis je suis quelque part, puis je suis dans un endroit, mais tu sais, j'ai besoin de stimuler les sens, fait que je veux être dans un endroit, c'est beau, je veux être entourée de gens que j'aime, avec qui je peux parler, échanger, écouter, je veux pouvoir danser, bouger, je veux pouvoir manger, boire du bon vin, tu sais, donc, tu sais, je veux que ça sente bon, tu sais, alors, tu peux avoir des roses, c'est de la lavande, tu sais, bon, tu sais, ça, là, plus j'ai de sens éveillé, plus pour moi, ça se rapproche vraiment de la journée parfaite. T'sais. Et si, elle pouvait, si je pouvais ramener les gens que j'ai perdus, ça, ça serait le summum. Si c'était possible, juste une journée, vraiment, là, avoir ma mère, avoir mes grands-parents, ça serait, ça serait plus que parfait.
Écoute, c'est tellement émouvant et touchant de t'entendre. Puis, j'ai goûté un peu avec toi à cette journée parfaite quand, comme conférencier, tu m'as amené à Cuba.
Oui.
Avec, tu sais, on était toute une gang, Robert, on était, mon Dieu, c'était qui les autres conférenciers?
Robin Roy.
Robin qui nous faisait faire des entraînements, puis la méditation. Mais non, mais tu sais, ce que tu fais, là, quand tu nolises un avion, parce que tu amènes les gens à faire une quête de sens, prendre soin d'eux, se remettre à bien manger, à bouger, à travailler leur intérieur. Ouais. Mais il y a le party, il y a de la bonne bouffe, il y a de la musique. Donc, il y a un peu de ça dans la journée parfaite.
Il y a plein de journées parfaites.
Tu trouves pas dans ta semaine, il y a un peu de cette essence-là.
Mais c'est ce que j'essaie de faire. Tu sais, ça, cette année, vois-tu, j'arrive justement, c'était mon 14e camp SOS Santé Beauté. On était 300. Et j'aime inviter, vois-tu, des artistes, des conférenciers qui... Et j'essaie tout le temps d'amener du monde nouveau. Parce que moi aussi, je veux que ça continue de contribuer à mon bien-être, à mon bonheur. Je veux apprendre. J'aime l'humain. J'aime profondément pour vrai l'humain, tu sais. Fait que, tu sais, dans des voyages comme ça, mais je fais là, j'avais Hugo Dubé, que je connaissais pas, un acteur, il était avec sa femme magnifique,
Et conférencier aussi.
Et conférencier qui était là aussi. Tu sais, j'ai Martin Bilodeau, avec qui j'arrive d'aller faire une quête de bien-être au Mexique, qui est tellement hallucinant.
Beau monsieur.
Ah, vraiment. Puis, tu sais, cet homme-là, je le veux davantage dans ma vie. Mais oui, c'est ça, en fait, tu sais, d'avoir la possibilité de se créer des journées parfaites. T'sais, tu disais tantôt, mais qu'est-ce que je fais de la vie? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis, tu sais, souvent, les gens vont nous écouter puis vont dire, ben oui, c'est facile à dire, eux autres, on dirait que tout leur tombe du ciel. Non, non. Tout ne tombe pas du ciel, mais tellement pas, tu sais. Mais... on a, tu sais, j'essaie de faire en sorte avec ce que j'ai d'apprécier d'abord ce que j'ai dans un premier temps, c'est parce que c'est vraiment ça, apprécier ce que j'ai, puis faire avec ce que j'ai, puis quand tu t'arrêtes pour juste regarder ce que tu as, je veux dire, et tu regardes, puis je sais pas, en regardant les autres, tu te consoles, mais regarde ailleurs, dans d'autres pays, comment privilégié on est, tu sais.
Je viens d'avoir un flash. T'es la Nadia Comaneci du bonheur.
Oh my God!
Je vais te dire pourquoi. Nadia, elle a eu des notes parfaites. Hein? Elle a eu des 10 aux Jeux olympiques de 76. C'est la première fois qu'elle avait qu'on donnait une note parfaite. Mais il y a du travail en tabarnouche. Donc, toi, ton bonheur, il y a du travail. Il y a des pertes, il y a des deuils, mais il y a une joie profonde qui émane de toi qu'on est capable de retrouver dans ton œuvre. Puis, je suis capable de revoir la Chantal Lacroix du cégep André Grasset à 17 ans sur une scène. Tu as cette essence-là, mais il y a du travail. Donc, le bonheur, ça se savoure, mais ça se prépare aussi.
Ça se prépare, puis c'est au quotidien. C'est pas parce que là, t'es heureux, heureuse, que tu peux dire, hey, là, j'ai la recette, là, puis ça va être de même jusqu'à la fin de mes jours. Ben non, il y a des épreuves qui vont te ramasser.
Ben
tu vas vivre des émotions qui vont te faire mal, qui vont te faire souffrir. Fait que t'as jamais la recette concrètement. C'est dans ce sens-là que je dis ça s'alimente, c'est au quotidien. Tu sais, c'est tout le temps d'aller chercher alimenter cette joie-là à l'intérieur en faisant différentes choses. Tu sais, des fois, tu sais, je me souviens dans ma quête, m'avait dit, essaie de te connecter à des affaires que tu avais déjà jadis procuré du bonheur que tu as arrêté de faire. Tu sais, des fois, c'est des choses anodines que
comme
j'avais...
Écoute-moi,
c'était plein de trucs. Tu sais, moi, je me souviens, là, tu vas me dire, ça n'est pas anodine, mais recommencer à faire du ski alpin. J'avais fait du ski alpin à l'âge de 16 ans, moi. Puis à un moment donné, le chum que j'avais, il m'a laissé tomber. Fait que j'ai plus refait de ski alpin parce que personne autour de moi en faisait. Fait que j'ai recommencé seulement qu'à l'âge de 54 ans d'en faire. Mais j'étais pas bonne, ces pistes de ski, tu comprends, mais le bonheur que j'ai eu à en refaire et, sais-tu qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a connecté dans le moment présent. Parce que tabarouette, je peux pas penser à rien d'autre. J'ai assez peur de tomber. Je suis là en sache-neige. Je fais ça. Fait, je suis connectée dans mon moment présent. Marcher dans la forêt, hey, ça fait des années que je faisais plus ça. Je faisais plus ça, me promener dans la forêt. Non, pas le temps. Je vivais, tu sais, à Ville-la-Salle, en plein. Il n'y a pas de forêt autour. Tu sais, de partir, de dire, je fais juste marcher dans la forêt. Ma mère aimait toujours que j'y rapporte des cailloux. quand je voyageais. Mais là, je fais ça. Chaque fois que je marche quelque part, j'essaie de me ramasser quelque chose que je mets dans un gros pot, tu sais. Donc, de me reconnecter à ça, des moments comme ça qui semblent tellement anodins, tu sais, mais qui fait que tu te concentres. Faire des toiles. Tu sais, j'ai recommencé à faire ça avec Camille, peinturer, mettre une toile, let's go, on peinture. Ça, ça sera pas beau parce que j'ai aucun talent. Mais pendant que j'essaie de m'appliquer, il y a quelque chose qui s'évade. Je suis dans le moment présent, tu sais.
Je pense à rien d'autre.
Pense à rien d'autre. Fait que c'est
dans
des
le
choses...
flow. Oui, il appelle ça le flow de l'instant présent.
Ouais, fait que c'est plein de petites choses comme ça, mais ça éveille de quoi. Puis tu sais, puis peinturer m'a reconnecté à ma mère qui, elle, est tellement peinturée, puis tu sais, bon, elle était tellement talentueuse. Fait que c'est des choses comme
c'est
ça, des
fun.
Fois.
Bravo, des petits...
Ah ouais. Ben,
des petits trucs simples. T'en as pogné deux, pogne les deux.
Non, celle-là est là. Et bon, as-tu des regrets? Si oui, que sont-ils? En fait, je pense que le regret, parce que bon, il n'y a rien, tout ce que tu vis t'amène quelque part. Si j'en avais un, ce serait certainement de ne pas avoir appris plus de langues. C'est-à-dire que moi, je ne parle pas couramment, fluemment anglais. J'aurais aimé maîtriser davantage l'anglais. J'aurais aimé maîtriser davantage l'espagnol. Ouais. J'aurais aimé le langage des signes. Mm-hmm. Parce que, puis tu vas me dire, il n'est pas trop tard, puis je te dirais que c'est probablement ça que je vais parfaire, tu sais, que je vais... Parce que je trouve que c'est la communication. Quand je te dis j'aime l'humain, là, mais c'est ça. Souvent, j'ai la barrière de la langue. Tu sais, oui, je baragouine, tu sais, on va faire gesticule, mais de gesticuler, tu vas faire, il y a des mots que je comprends, mais de pouvoir communiquer... Ouais, je te dirais, j'aurais aimé, tu sais, tu sais, ma fille, là, elle parle couramment anglais, puis je trouve que c'est le plus beau des cadeaux. Elle parle du français à l'anglais. Là, elle commence, c'est dans l'espagnol, elle a ce désir-là. Tu sais, mon Dieu, ça pouvait apprendre le mandarin aussi. C'est l'ouverture sur le monde.
C'est la première fois que quelqu'un me parle la langue des signes. Moi, je marine dans le milieu des personnes handicapées. J'ai appris la langue, la LSQ. Mais toi, pourquoi la langue des signes?
Ben le problème, parce que je suis sourde d'une oreille, tu comprends-tu, puis de l'autre, j'entends pas tellement bien, non, tu sais, parce qu'en fait, je dirais, je me souviens d'avoir fait un « on efface, on recommence », puis t'es arrivé dans une famille où c'était vraiment la langue des signes, en fait, bon... Et puis là, il a fallu que j'apprenne, tu sais, je voulais dire des phrases, et puis tu sais, c'était laborieux, et je m'en voulais de pas avoir appris ça, tu sais. En fait, je te dirais, le plus de possibilités pour pouvoir...
Pas juste communiquer,
écouter ce qu'on me dit. Tu sais, quand je suis allée à Cuba, on est allé faire des donneaux suivants. J'ai ajouté ça à ma semaine. On va aller donneaux suivants, gang. On pouvait aller dans une école, on peut aller dans les centres de maternité, tu seras pas étonné, je suis allée dans les résidences de personnes âgées. Et là, j'étais là, puis là, j'asais avec eux autres, puis là, je baragouinais l'espagnol. Fait que là, ils sont mis, si j'avais pratiqué mes phrases. Fait que là, ils pensaient que je parlais couramment. Fait que là, ils défilent ça, puis là, tu comprends plus rien. Puis t'as beau dire, oh, mas espacio, mas lentamente, por favor. Mais tu comprends, tu sais, cet échange-là, là. Ça, je te dirais, c'est peut-être le plus grand des regrets pour moi.
Mais au moins... Il n'est pas trop tard.
Il n'est pas trop tard.
Il n'est pas trop tard. Ça, c'est le 2-1 que tu as pogné.
Ah,
tantôt.
J'ai pogné le 2-1.
Ben oui. T'es accroché à l'autre.
Peux-tu nous raconter un moment où tu as eu l'air vraiment fou? Hey, attends une minute, Seigneur.
T'as droit à juste un, hein?
My God.
T'es-tu capable d'en trouver un?
Oui, je peux en trouver. Mais c'est le premier qui. C'est celle-là qui me vient. Je te dirais, oh my God. Il y a juste un, lequel je prends. je vais te prendre peut-être celui-là parce que j'ai pensé que ma carrière était finie. Je vais y aller avec celui-là.
Ouch.
J'anime TQS change de nom, c'est le mouton noir, oui. C'est leur slogan. On me demande, je viens de terminer une saison de partie pour l'été, fait qu'on me demande d'animer devant tout le parterre de l'industrie. Il y a 1500 personnes, les producteurs sont là, tout le monde est là. Et je dois co-animer avec le mouton noir. Il y a un mouton noir sur scène. Et le mouton noir fait rien de ce qu'il doit faire. Et j'ai pas assez les reins solides comme animatrice. Je me mets à bafouiller, je perds les mots, j'ai un blanc de mémoire. Je suis devant le parterre de l'industrie. Je sors de scène et pour moi, ma carrière est finie. Moi, je me suis planté à la gueule devant toute l'industrie, il n'y a pas personne qui va m'engager. Je me remets en question comme animatrice. Ah, ah non, c'est en une fraction seconde, là, je me remets en question comme animatrice. Je trouve pas que je suis faite pour ce métier-là, etc. En tout cas, bref, c'est, heureusement, en coulisses, il y a un Dan Vigra qui est là, qui me voit brailler, qui vient me voir, puis qui me dit « Qu'est-ce qu'il y a, petite? » Je viens de me planter, puis tu sais, puis là, c'est, ma carrière est finie. Puis il dit hey, « on s'est tous plantés dans notre vie, là. Tu vas retourner sur scène, tu vas finir, qu'est-ce que tu as commencé? » Je suis retournée sur scène, j'ai fini ce que j'avais à faire. Ça n'a pas fini avec un standing ovation. Ça a fini de peine et de misère. J'avais hâte de revenir à la maison. Ouais. J'étais arrivée à la maison en pleurant ma vie. Puis c'est mon père qui a fait ce qu'il fallait faire, qui est sorti me regarder. Puis là, j'ai dit, papa, ma carrière est finie. Ça, c'est court de même. T'sais. Puis il me dit, ah oui. Puis là, je raconte ce qui s'est passé. Puis là, mon père prend un billet de 100$. Puis là, il dit, tu veux 100$ pour remonter le moral? Fait que je peux bien le prendre. Puis là, avant de me le donner, il le prend, puis il le griffonne, puis il le met en petit tas, il me jette à terre, il pile dessus. Puis il me redonne la boule, puis il dit, tu veux-tu encore le billet de 100$? Fait que je dis, ben oui. Fait qu'il dit, ben pourquoi? T'sais, ben, je dis, ben parce qu'il vaut encore 100$. Ben c'est la même chose pour toi, ma fille. Tu vaux encore ce que tu valais. T'sais.
C'est beau.
Puis ça, ça a été... mais c'est ce moment-là, là, pour moi, c'est la fois où j'ai eu l'air la plus folle.
Ouais.
Parce que j'ai perdu mes moyens. J'étais pas capable de trouver les mots. J'étais pas...
Ouais, mais... Animé avec un mouton, c'était pas évident. Hein?
Non, je le sais, mais même à ça, tu sais, il y a des gens qui ont de la répartie, qui sortent de bord, qui auraient fait des jokes. J'aurais voulu être un Martin Mal, j'aurais voulu être un humoriste à ce moment-là pour être capable de trouver les mots puis me servir de ce moment-là, tu sais. Mais j'avais pas la répartie. Puis, tu sais, puis je te dirais, pendant un bout de temps, je me suis questionnée à me dire si j'avais ma place comme animatrice pour cette raison-là, tu sais. Tu sais, la confiance, ça peut prendre tellement de temps à se bâtir, mais en un claquement de doigts, c'est plus que ça peut être démoli.
Malgré les médailles, malgré les gémeaux, malgré les succès, tu reviens quand même à cette histoire-là, puis tu croyais pour vrai que c'était fini, hein, t'imagines? Ah. C'est fou, hein?
Je te dirais, j'ai 58, puis j'ai pas... J'ai quand même une confiance, tu comprends, c'est facilement ébranlable encore. Puis en même temps, sais-tu quoi? Je pense que c'est correct que ce soit ça. On reste humain. On est humain, puis tu comprends-tu? Puis cette vulnérabilité-là qui m'habite, je pense que c'est peut-être des fois ce qui fait que j'ai tellement d'empathie, je comprends qu'il n'y a pas de jugement.
Et tu ne te prends pas pour acquise, ni ta carrière, ni toi.
Puis non, vraiment, jamais, ça m'arrivera, ça, jamais. À 58, je peux me dire, je peux te dire ça.
J'ai le même âge que toi, puis j'ai à la maison une tasse de l'époque du mouton noir, je regarde ça. Toute une époque dans les années 90, hein, TQS.
Ça fait.
Hey, écoute, des beaux souvenirs aussi.
Tout à fait. T'étais là, toi, avec.
Ben, je me souviens très bien. Je m'en souviens très bien.
Allez. Encore?
Ben oui.
OK, mon Dieu, je pensais que j'avais fini.
Ayons une pensée pour le mouton noir qui est peut-être un méchoui maintenant.
Mon Dieu, quelle est la plus belle phrase que t'as entendue de toute ta vie? Oh my God. Hey, Seigneur. La plus belle. Hey, c'est...
Ça prend le temps. Il faut que tu prennes le temps d'y penser.
Oui, mais c'est gros, ça, la plus belle phrase que j'ai dans toute ma vie.
Et écoute, puis tu sais qu'il y a une centaine de questions. Tu es tombé là-dessus, puis elle n'est pas sortie souvent. Et ça prend bien Chantal Lacroix qui en a vu et entendu des belles.
Ouais.
Prends ton temps, parce que je sais que tu dois penser à tes proches. Là.
C'est exactement
tu
là.
Tu dois penser
que je suis...
à.
Tu sais, c'est dur. C'est... Oh my God, c'est puis j'ai entendu plein de belles phrases, c'est.
Veux-tu m'y
c'était dur celle-là, honnêtement, Jean-Marie, j'arrive pas à la trouver.
Non, mais moi je crois à la stratégie de, on va laisser mijoter à feu doux. On la met de côté, tant pis, j'ai une autre suite. Il nous reste un peu quelques temps, Mathieu, il reste 4-5 minutes, parfait. Ouais. Pense à ça, là, laisse ça de côté, puis c'est quoi celle-ci?
Quelle est la signification du mot « amitié » pour toi? Une amie, pour moi, mon Dieu, c'est une amie, pour moi, c'est une amie qui... notre amitié a l'allure d'un cercle, elle est inséparable, tu sais. Puis, tu sais, une amie, tu sais, je pense entre autres à ma chum Annie Broccoli, tu sais. Broco, je la vois pas souvent, mais tu comprends-tu? Mais à chaque fois, quand on se revoit, on reprend exactement où on s'est laissé. Alors, c'est être là dans les bons comme dans les mauvais moments, mais c'est en même temps comprendre sans qu'on ait besoin de parler.
L'essence, si tu avais à regarder l'essence d'une amitié pure, c'est quoi? C'est quoi les ingrédients d'une amitié pure?
Ah, je te dirais certainement de ne pas bienveillance, mm-hmm. être dans la bienveillance, ne pas être dans le jugement. Mm-hmm. Tu sais, que ferait l'amour? D'être dans l'amour constamment. C'est vraiment ça. Tu sais, puis c'est particulier ce que je vais dire, mais, et comprends-moi, là, mon chum, il est hyper important dans ma vie, puis c'est l'homme avec qui je vais finir mes jours. Mm-hmm. Mais pour moi, l'amitié est plus précieux que l'amour. Mm-hmm. Parce que mes amis de l'âge de 5 ans sont encore dans ma vie. Mais le petit amoureux de l'âge de 5 ans n'est plus dans ma vie.
Non.
Tu comprends? Ma chum de mes 18 ans est encore dans ma vie, alors que l'homme que je fréquente à 18 ans ne l'est plus. Fait que pour moi, l'amitié, c'est très précieux. Okay. Tu comprends-tu? Alors, oui. Ça a une valeur. L'amour aussi, comprends-moi, tu comprends? Mais il reste que pour moi, l'amitié, c'est...
Quelle richesse.
C'est, ouais,
c'est quelle richesse que d'avoir des amis. Alors, je vais revenir à, je reviens à la question. Alors, mais là, je vais te la poser. Absolument, c'est toi qui lis la question. Alors, pense à ta mère.
Ouais.
Pense à ta fille. Parce que des fois, c'est des phrases magiques qui viennent de nos enfants. Ouais. Alors, quelle est la plus belle phrase que tu as entendue?
C'est, en fait, là, c'est celle que je pense que je répète à ma fille qui vient de ma mère. C'était « Je t'aime plus gros que le ciel ». Ouais, c'est celle-là. Ma mère m'a dit ça, puis je la répète souvent à ma fille, celle-là.
C'est beau, hein? Donc, tu as réuni deux personnes.
Ouais.
C'est la même phrase pour les deux.
Ouais. «
Je t'aime plus gros que le ciel ».
C'est
beau.
Simple. C'est j'aurais c'est tellement beau. Voulu... que ce soit quelque chose de plus élaboré, mais je t'aime plus gros que le ciel.
Hey,
pour moi,
imparfaite.
C'est énorme.
Elle est parfaite. Hein? Elle est comme toi.
Je sais pas.
Dernière question.
Oui.
Pas besoin de chapeau.
Bon, dit que je braille.
Ah, ben ça veut dire que ta vulnérabilité est à fleur de peau. Puis ça, quand on est vrai et vulnérable, on n'a peur de personne et on est toujours adéquat.
Ah non, mais j'accueille ces émotions-là qui me rentrent dans le cœur.
Tu fais bien. Alors, Chantal Lacroix, c'est... Trois petits points. Tu complètes ça comment, toi? Chantal Lacroix, c'est trois petits points.
Ah, mon Dieu, ça. Chantal Lacroix, c'est une femme qui meurt dans la vie. Tu sais, en fait, qui meurt dans la vie, tu sais. C'est une maman heureuse. C'est une fille complète. Et c'est une amoureuse. Vraiment, tu sais.
Qui aime plus gros que le ciel.
Et c'est une amie. Et c'est une amie privilégiée aussi. Vraiment. Ouais.
Wow. C'est beau, hein?
Ouais, c'est beau, certain.
C'est parfait.
Je sais pas, c'est peut-être pas. C'est vrai, ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça que ça sort.
Je te laisse respirer toutes ces belles émotions, toutes ces belles phrases. Et j'aime beaucoup le qui aime plus gros que le ciel. C'est beau, 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 ça.
C'est drôle parce que c'est la chanson que quand ma grand-mère est décédée, ma mère à 99 ans et demi, mm-hmm. Annie Broccoli est venue chanter une chanson. Et puis, j'avais dit, ça pourrait être peut-être « Je t'aime gros comme le ciel ». Et puis, c'est ça qu'elle a chanté aussi. Même à ma mère, je réalise que c'est ça qu'elle a chanté également.
« Je t'aime plus gros que le ciel ».
Je t'aime gros comme le ciel. Oui, c'est ça qu'elle a chanté aussi également.
Wow.
Ça me revient maintenant.
C'est beau.
Elle est importante, cette phrase-là, finalement.
Clairement. Chantal Lacroix, merci.
Ah, merci, mon ami.
Ça passe vite, une belle heure de même.
Ça passe vite.
Merci. Alors, vous avez entendu la belle Chantal Lacroix à l'émission Porte-parole. La musique est... Bon, ça, c'est moi qui l'ai composée, c'est pas ça que je voulais dire. Mais l'idée originale, c'est mon agente Marie-Philippe et moi, on a travaillé sur cette émission-là, puis c'est arrivé sur un coin de table, puis ça a donné Porte-parole. Alors, j'aimerais remercier Marie-Philippe. Je remercie Philippe Lapointe, le directeur à la radio ici à Canal M, Jean-Sébastien Laliberté à la diffusion, le chef de diffusion, Mathieu Tessier, mise en onde à la recherche, coordination, Aya Jennifer Ando, Gerly Ormelet aux réseaux sociaux, ici Jean-Marie Lapointe. Merci d'avoir été avec nous à l'émission Porte-parole, puis je vous souhaite une belle journée. À bientôt.